faites le contraire de l'inconstance et de l'ennui. Et puis, qu'est-ce qu'on fuit dans cette condition ? On fuit notre condition à travers le divertissement, qui est une sorte de vie parallèle, en réalité de vie imaginaire, de vie factice, même inauthentique, si vous voulez, qui nous fait fuir. Le divertissement, c'est une fuite.
Hein. Ouais. Et en même temps, on n'a pas le choix, hein, parce que selon Pascal, sans divertissement, que fait-on ?
C'est insupportable. Ah oui, le divertissement, c'est à la fois ce qui nous empêche de voir qui nous sommes et la vie que nous menons, mais sans le divertissement, nous serions dans une tristesse qui serait proche du désespoir. Donc en fait, le divertissement rend impossible l'accès à la vérité, mais il rend la vie supportable.
La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, oui. Et cependant, c'est la plus grande de nos misères.
Voilà, exactement. Vous voyez, quand je vous parlais de piège chez Pascal, là c'est un piège qui se referme sur nous. C'est-à-dire que le divertissement nous console de nos misères, mais en réalité c'est la plus grande de nos misères parce que ce n'est pas une consolation. C'est-à-dire qu'en fait, dans le divertissement, on croit mettre en place un dispositif, et puis Pascal va très très loin, c'est toutes les actions des hommes peuvent se ranger sous la catégorie du divertissement, de la philosophie, enfin des savants, des scientifiques, à la guerre, en passant par l'ambition politique, le jeu, la séduction, les conversations, toute la culture, en fait, toute la société est un dispositif de divertissement, jusqu'au roi, qui ne peut supporter sa condition qu'à la condition de, justement, d'être diverti. Mais tout ce que cherche le divertissement, c'est de nous consoler.
Alors que nous sommes inconsolables.
Ah, et voilà. Et c'est ça qui m'intéressait dans l'inquiétude. C'est-à-dire que le divertissement nous fait fuir notre condition. Il nous fait fuir. Alors, très souvent, les commentateurs ont dit que ce qu'on fuyait dans le divertissement, c'était la pensée de la mort. Je crois que ça ne fonctionne pas. D'abord parce que quand je suis là, la mort n'y est pas. Et que la pensée de la mort n'est pas quelque chose qui me motive dans mes actions. Et parce que Pascal a écrit autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit « Rien ne peut nous consoler ». Lorsque nous y pensons de près. Et c'est cette vérité abominable, insupportable, que nous fuyons dans le divertissement. Pourquoi ? Parce que tout pendant que je suis immergée totalement dans une action qui m'occupe ou dans un mouvement perpétuel, mes rendez-vous, l'enchaînement de mes rendez-vous, mes occupations, mes ambitions, mes consolations, mes séductions, mes envies, mes désirs, tout pendant ce temps que dure le divertissement, je ne me pose pas de la question de savoir quel sens a tout ça. Quel sens a ma vie perdue dans un recoin de l'univers ?
Ce sont les questions existentielles qui nous font mal, en fait.
Exactement, mais bien sûr. Les questions existentielles nous font mal parce que la réponse, c'est celle que donne Pascal. Rien ne peut nous consoler. Comment vous pensez que la vie pourrait être supportable si on regardait en face cette réalité que rien ne peut nous consoler ? Que deviendrait cette série de consolations que nous mettons en place, donc le divertissement, si nous savions qu'en réalité, ça fait tout sauf nous consoler. Au contraire, ça nous rend encore plus tristes qu'avant.
Et la philosophie donc,
c'est
ne nous console pas
C'est ce qui est plus désespérant, en fait. La philosophie. Ah, alors la philosophie ne console pas parce qu'elle n'a pas vu quelle était la condition de l'homme. Mais la philosophie de Pascal a cet effet particulier. Je pense que c'est pour ça que ça a intéressé Nietzsche, parce qu'il y a quelque chose de thérapeutique dans la philosophie de Pascal. La philosophie de Pascal, elle va avoir pour effet de nous obliger à faire ce que nous ne voulons pas faire, à savoir réfléchir, nous inquiéter, parce que l'inquiétude est toujours liée à des moments de réflexion. Réfléchir à ce que nous faisons, ce que nous sommes, la vie que nous menons. Donc la philosophie de Pascal, elle marque une sorte de coup d'arrêt dans la frénésie de nos occupations qui font que le nez dans nos préoccupations, nos tracas, nos rendez-vous, nos ambitions, nous ne voyons pas la réalité. Donc Pascal, c'est cette philosophie qui veut nous inquiéter de ne pas nous inquiéter. Et donc je pense que cette philosophie-là, parce qu'elle voit l'homme tel qu'il est, elle peut avoir pas un effet de consolation, parce que Dieu seul est un Dieu d'amour et de consolation, mais un effet, un choc, dont le choc en retour serait de nous inquiéter, nous qui refusons de nous inquiéter.
De quoi devrions-nous être consolés, en fait, selon Pascal ?
D'être inconsolable. C'est-à-dire que si vous me demandiez quel est le fond, qu'est-ce qui fait l'homme ?
Mais d'où vient cette tristesse, alors ?
La tristesse, elle est liée à l'inconsolabilité. Ouais. Nous sommes inconsolables. Et nous sommes des animaux inconsolables qui ne cessons de chercher des consolations, mais qui échouent. Pourquoi elles échouent ? Parce que le divertissement, comme type de consolation, ne dure qu'un temps. ne dure qu'un temps et le ver est dans le fruit, c'est-à-dire que pendant que durent nos bonheurs illusoires et éphémères, nous savons déjà qu'ils vont finir. Ensuite, quand une des consolations vient nous consoler d'une tristesse ou d'un désir, 10 autres désirs naissent. Vous en avez peut-être fait l'expérience, on est consolé de quelque chose, puis on dit « Ah oui, mais quand même, c'est venu trop tard » ou « C'est pas exactement ça que je voulais ». Donc, pour une consolation obtenue, 10 autres désirs insatisfaits vont naître. Et puis, parce que les consolations que nous trouvons, elles fonctionnent pas. Elles fonctionnent pas. Elles ne viennent pas remplir cette aspiration infinie que nous avons en nous. Nous avons un désir en nous qui est plus grand que nous. Et nous le remplissons à la petite cuillère. C'est ça que nous dit Pascal. C'est vous donnez à votre désir et à votre espérance, qui est en vous une espérance et une aspiration à l'infini, vous lui donnez à la petite cuillère. Comment voulez-vous être satisfait ?
Autrement dit, nous aspirons au bonheur sans pouvoir y accéder ? C'est ce que nous dit Pascal ?
Absolument, Pascal nous dit que, alors c'est intéressant parce qu'il y a des images très fortes chez Pascal, le bonheur a laissé en nous comme un gouffre infini, un abîme. Nous sommes en fait creusés de l'intérieur par un bonheur perdu, par un paradis éloigné. Nous sommes comme des êtres en exil en fait avec, alors pas en exil seulement, mais en exil avec l'idée de ce que serait la patrie, le royaume, là où on serait enfin ce que nous devons être. Et puis il a une autre expression moi qui m'a beaucoup intriguée, il dit que nous avons une capacité naturelle au bonheur, comme à la vérité d'ailleurs, mais il ajoute, et là c'est du Pascal, hein, mais il ajoute que cette capacité au bonheur et à la vérité est vide. Qu'est-ce que c'est qu'une capacité vide ? C'est pas rien. Le vide, c'est pas le néant chez Pascal, c'est pas rien. Mais nous sommes, cette capacité vide en nous fait que nous sommes taraudés par une image du bonheur. Nous savons que ce que nous vivons là, nos petites consolations, nos bonheurs illusoires, éphémères, tout ça, c'est pas ça le bonheur. Nous le savons que c'est pas ça le bonheur. C'est d'ailleurs ce qui fait notre grandeur. Mais nous le savons du fond de notre misère. Nous savons que c'est pas ça qui nous consolera. Donc Pascal ajoute, nous voulons le bonheur et nous ne voulons que ça. Et nous sommes, dit-il, malheureux et plus... Alors, je me suis demandé ce que pouvait être pire que le malheur, malheureux et plus. Mais pire que le malheur, c'est parce que nous avons conscience de ce malheur. Nous avons en nous un désir de bonheur que nous n'arrivons pas à combler. Enfin, nous avons un désir insatiable de bonheur que nous ne pouvons pas satisfaire. C'est en nous l'inquiétude d'une capacité qui s'est vidée d'elle-même.
Qui suis-je ? Ça, c'est pas du tout la grande question philosophique ou existentielle de Pascal. Pour lui, c'est plutôt que dois-je faire ? Question clé de la philosophie pascalienne, Laurence de Villers.
Oui, il m'a semblé que Pascal, en cela, était vraiment un homme du XVIIe siècle, parce que cette question « que dois-je faire ?», on la retrouve chez Racine, on la retrouve chez Molière. Il y a cette idée vraiment « qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle ?» Enfin, c'est pour ça que c'est mon siècle, enfin, c'est le siècle qui m'intéresse. C'est qu'il y a des choses qui adviennent, qui n'existaient pas. Alors, on appelle ça la modernité. La modernité, ça serait l'avènement de questionnements, de visions des choses qui n'étaient pas là avant. Et l'homme du XVIIe siècle, c'est un homme pour lequel on aurait comme retiré le tapis sous ses pieds. C'est-à-dire que tout ce qui était là pour donner du sens à sa vie et lui donner une place dans le monde, les rangs, l'organisation du cosmos, qui était un monde fini avec chacun à sa place, le christianisme, qui était uni. Il y avait un seul christianisme. Après les guerres de religion, il y a plusieurs christianisme, il y a plusieurs manières d'être chrétien. Donc c'est un monde qui a perdu ses repères, c'est un monde, comme le dit Pascal, où le fondement craque et s'abîme sous nos pas. C'est ça l'homme de Pascal, c'est l'homme pour qui il y a plus de repères et dans ce vertige au milieu de ces espaces infinis, complètement muets, totalement indifférents à ma vie, il se demande que dois-je faire ? Moi, je pense que la question « que dois-je faire ?», c'est fondamentalement la question des modernes, enfin, c'est encore celle qui nous occupe. Que devons-nous faire, nous qui n'avons plus d'autre que repères, que ceux que nous allons nous donner ?
Et c'est donc une philosophie qui pousse à l'action, au mouvement ?
Ah oui, absolument. Pour moi, la philosophie de Pascal, elle est écrite au bord du gouffre. Parce que si vous acceptez de faire cet effort insupportable de vous regarder tel que vous êtes et de jeter un œil à votre vie dans ses tristesses et ses fausses joies, vous allez approcher du précipice. Donc c'est vraiment une philosophie qui est sur le fil et au bord du précipice. La seule vraie question à se poser, c'est pas qui suis-je, c'est que dois-je faire.
Marianne Alphand, vous l'aviez détectée, cette notion de l'inquiétude?
Ah oui, bien sûr, l'inquiétude, elle est là, elle est omniprésente, et une espèce d'incertitude, qui est d'ailleurs entretenue par Pascal lui-même, si je puis dire, c'est-à-dire que quand il se demande comment il va écrire, comment il va rédiger, argumenter, etc., il choisit de nous déséquilibrer. S'il se vante, je la baisse, etc. Il y a des tas de pensées de Pascal qui montrent à quel point il souhaitait susciter l'inquiétude, l'incertitude.
Et l'inconfort.
Au fond, c'est une entreprise de sape contre nos certitudes et notre assise. Il y a un fragment que j'aime beaucoup. Travailler pour l'incertain, aller sur mer, passer sur une planche. Bon, voilà. Si on fait ça, c'est le vertige, c'est l'angoisse. C'est pour ça que d'ailleurs il a une postérité ou une résonance chez toutes les philosophies qui ont travaillé la question de l'angoisse et de l'existence. Hein, voilà. Voilà ce que nous sommes. Hein. Donc il a, d'une façon très étonnante, il nous ramène sans cesse, en jouant sur le déséquilibre, à quelque chose qui est notre condition inconsolable. C'est pour ça qu'il a suscité aussi, qu'il continue à susciter tant d'irritation. Hein. Bon, il nous dérange. Mais c'est ce qu'il souhaitait faire. C'est ce qu'il souhaitait faire, nous détruire un peu ces espèces de nos petites accommodations avec notre malheur. Bon, voilà, on sait qu'on est un peu malheureux, qu'on va mourir, etc. Mais bon, on n'y pense pas. On se distrait. Et hop, il nous ramène à ça sans arrêt.
Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Ces mots de Pascal ont été répétés et commentés très très régulièrement pendant les périodes de confinement. Pourquoi ne supportons-nous pas le repos dans une chambre, Laurence de Vider?
Alors ça, c'est la cause de notre malheur. La cause de notre malheur, c'est que nous ne pouvons pas rester en repos. Pour d'abord une question, une affaire assez simple, c'est que au XVIIe siècle aussi, on découvre que tout est mouvement. On découvre la circulation sanguine, le cœur circule, la Terre tourne autour du Soleil, elle n'est pas immobile. Et jusque Molière, qui met en scène sa comédie, c'est une comédie du mouvement, c'est-à-dire de la pantomime, de l'agitation, de la frénésie. Donc l'homme du XVIIe siècle, il est à la fois inquiet et en mouvement. On pourrait même dire que l'inquiétude, c'est la mesure de son mouvement. Donc on ne peut pas rester en repos parce que nous sommes faits pour le mouvement. Enfin, nous sommes animés d'une volonté de bouger. Vous savez, celui qui a le mieux compris ce fragment de Pascal, c'est Baudelaire. Cette vie est un hôpital où chaque patient est pris du désir de changer de place. Donc c'est ne serait-ce que pour ça. La cause de notre malheur, c'est que nous ne pouvons pas rester à la place où nous sommes. Et puis, Pascal, qui a un esprit de finesse, va ajouter à cette cause une raison. Et la raison, c'est celle dont nous avons parlé avec Marianne Alphand, à savoir que si nous restions en repos dans la chambre, ce qui est insupportable et donc impossible, tenons-nous bien, c'est impossible, hein. Qu'est-ce qu'il adviendrait de nous? D'abord, nous aurions l'expérience de l'ennui, mais un ennui profond, un ennui tenace, poisseux.
Et puis le tête-à-tête avec soi-même.
Et le tête-à-tête avec soi-même, alors là, c'est un drame. Pourquoi? Parce que, par définition, nous ne voulons pas être ce que nous sommes. Nous ne voulons pas nous voir tels que nous sommes. Pascal le décrit avec beaucoup d'ironie. Nous voulons Être grand, nous nous voyons petits. Nous voulons être aimables et aimés de tous. Et nous sommes. Il n'y a rien en nous qui peut susciter l'amour. Donc en fait, nous ne voulons pas nous voir. Nous créons même un être imaginaire qui est une image de nous, que nous voudrions que les autres aient de nous et que nous aimons avoir de nous-mêmes, mais qui n'est pas nous. Mais on préférerait mourir pour cette image de nous qui n'est pas nous que s'occuper de ce qu'on est vraiment. Donc vous avez raison, la première chose qui vient, c'est l'ennui. Et donc on veut le fuir immédiatement. En fait, le repos dans une chambre ne dure pas parce que l'ennui est si insupportable que, Pascal le dit, nous allons mendier le tumulte. Nous ressortons, nous avons besoin de mettre de la musique de fond. Ne serait-ce que brancher la radio et mettre de la musique, c'est déjà échapper au repos. Et puis parce qu'il y a, comme vous le dites, ce tête-à-tête avec nous-mêmes. Et puis vient la raison qui est qu'on va voir ce qu'est vraiment notre vie, la vie que nous menons, et nous allons saisir que nous sommes inconsolables.
C'est QFD, ou presque. Marianne Alphand.
Pour rajouter une pièce à cette machinerie que décrit Laurence de Villers, il y a un fragment qui est commencement cachot. C'est-à-dire que, justement, nous sommes comme des prisonniers dans un cachot.
Terrible.
Et là, c'est vertigineux, oui.
Nous arrivons déjà presque à la fin de cet échange. Encore trois questions à vous poser avec des réponses extrêmement brèves de votre part. Première question, pourquoi lire Pascal aujourd'hui ? Laurence de Villers, en un mot.
Parce que je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas se laisser avoir par la psychologie positive et le développement personnel qui nous mentent.
Marianne Alphand.
C'est-à-dire qu'en dehors de toutes ces raisons philosophiques tellement importantes, il y a une beauté extraordinaire dans les pensées.
Quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui n'a jamais lu Pascal, Laurence de Villers ?
Ah bah alors de s'y mettre très très vite et de l'ouvrir à n'importe quel endroit. De s'y mettre très très vite, c'est salutaire, hein. C'est une thérapie, c'est une ordonnance, c'est une prescription.
Marianne Alphand.
Oui, c'est-à-dire de ne pas... Alors, tout le monde a un petit souvenir de Pascal. Enfin bon, c'est lié à l'école, etc. Donc, si je pouvais donner un conseil, c'est n'allez pas aux fragments que vous connaissez déjà. Fouillez un peu autour. Et regardez un peu ce rayonnement mystérieux de fragments plus ou moins compréhensibles, plus ou moins obscurs, plus ou moins rayonnants. Et à ce moment-là, votre vie change.
Il faut accepter le mystère quand on lit Pascal ?
Ah oui. En philosophie, c'est un principe, hein. Il faut accepter, il faut comprendre ce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on ne va pas comprendre. Et ça, c'est le début de la philosophie. C'est primordial. Accepter de ne pas comprendre. Et je pense que notre époque a tellement besoin
de
comprendre, de tout saisir, de posséder, de maîtriser, de gérer, comme on dit ce mot atroce. On ne gère pas la lecture des pensées. On se laisse absolument troubler par elles.
Oui, on est débordé. Oui, accepter de ne pas comprendre. Je me souviens qu'à l'époque où j'enseignais la philosophie, c'est ce que je disais à mes élèves. Et ça les perturbait beaucoup, hein, beaucoup. Ils pensaient qu'ils allaient trouver la vérité, et non. On essaye de comprendre pourquoi on ne peut pas comprendre. C'est un beau début.
Allez, dernière question. Que dirait Pascal s'il débarquait en 2023 ? Laurence de Villers.
Alors, je pense qu'il serait très intéressé par l'intelligence artificielle, parce qu'il a été quand même le premier créateur d'une machine à calculer. Donc, la Pascaline, fondée sur son idée philosophique selon laquelle l'homme est tout autant, voire plus, automate, fait des choses automatiques sans y penser, qu'esprit. Donc je pense que vous l'inviteriez à l'une de vos émissions, mais pas « Et Dieu dans tout ça », mais « Science, neurologie et intelligence artificielle ».
Marianne Alphand.
Qu'est-ce qu'il dirait ? Il nous regarderait, il nous dirait « Vous ne changerez jamais. Mettez-vous au travail, essayez autre chose. » Et il dirait « Bon, c'est un peu plus compliqué, c'est plus bruyant, c'est plus en mouvement, etc. » Mais au fond... C'est toujours là. Il y a la même, au fond, il y a la même façon d'essayer d'échapper à notre condition.
Merci Marianne Alphand.